Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce second cours, je l'ai intitulé « La justice sociale à travers les versets de la Torah ». Mais avant de commencer à lire les versets, puisqu'il s'agira d'une lecture biblique essentiellement, il n'est pas inutile de poser un certain nombre de questions qui s'imposent dans le contexte contemporain où la question sociale est apparue. Commençons par une question proprement économique. Quel est le type d'économie qui est prôné par la Torah ? Est-ce qu'il s'agit d'une propriété privée ? Une propriété collective, quels sont les rapports entre employés et employeurs dans la Torah? Ou alors, on pourrait dire simplement, est-ce que c'est du capitalisme, le libre marché, ou est-ce que c'est du socialisme? Ni l'un ni l'autre, sans doute. Rappelons quelques données de base. La Torah prône même la propriété privée, d'abord sur la forme de terres agricoles, puis de tout bien, quel qu'il soit. Je rappelle que l'interdit du vol compte dans les 10 paroles énoncées au Sinaï, donc interdit fondamental, qui suppose qu'il y a donc une propriété privée. La terre d'Israël est divisée entre les tribus. La propriété privée des champs est le fondement de l'économie biblique et dans le Talmud, l'acquisition d'un bien, ce qu'on appelle le kinyan, sera le principe fondateur de tout échange économique. Toutefois, et cette réserve est fondamentale et de taille, la possession d'une terre ou d'un bien n'est jamais présentée comme un idéal en soi. La propriété ne vaut pas pour elle-même, mais elle est un socle sur lequel vont se greffer un grand nombre de commandements. Or, ces commandements ont tous une seule visée, rendre possible la dépossession, précisément, à travers des actions de dons faits à l'autre. En d'autres termes, la propriété n'est pas le signe de l'égoïsme, mais plutôt l'assise de la générosité, du souci de l'autre, l'autre homme ou Dieu. D'ailleurs, elle n'a aucune valeur en elle-même, au contraire, la Torah se méfie du rapport trop fusionnel de l'homme à sa terre, à ses biens. Il oublierait alors que la terre appartient ultimement au Saint béni soit-il, comme il est dit en psaume 24, « À Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle contient, l'Hachem haaretz umloa ». D'où l'obligation pour toute personne qui possède une terre, tout propriétaire, de donner une partie de sa récolte aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, mais aussi aux lévites et aux prêtres. La Torah refuse ainsi la pure jouissance de la possession ou le plaisir de l'accumulation des richesses. Et elle nous enjoint de donner une part de notre bien, de ne pas être trop attaché donc à nos biens. Les commandements liés à la terre ont tous le souci de l'autre comme vocation et comme ultime sens. L'économie, on le verra longuement, l'économie hébraïque est donc une école non pas tant de la charité, mais de la générosité et du partage. C'est plutôt ce sens-là qui est le véritable sens de la tzedaka, ce terme fondamental pour nous, la tzedaka juive. Voilà qui nous amène au rapport visé par la Torah envers le pauvre. La Torah inscrit le pauvre, que les maîtres d'Israël vont définir à travers un certain nombre de conditions, au cœur de son système social. Mais pas uniquement le pauvre, également toutes les figures socialement vulnérables, la veuve, l'orphelin, mais aussi l'étranger, le guer. Enfin, les lévites et les prêtres qui ne participent pas au cycle économique. Il y aurait peut-être ainsi non une seule, mais deux économies dans la Torah. L'économie sociale, dirigée donc vers ces figures socialement vulnérables, et l'économie sacrée ou sainte qui concerne les offrandes du temple, et donc tous ceux qui sont responsables du temple, les Kohen, les Lévites, etc. Principe de charité, mais aussi de générosité. D'ailleurs, surtout générosité, je dirais, plus que charité. En vérité, les deux procèdent d'une logique du don, du partage, qui nous engage à dépasser notre égoïsme, nos intérêts les plus étroits, et à nous ouvrir à l'autre. Donner du pain à l'autre est un acte spirituel, religieux. Rappelons cette parole d'un maître d'Israël, souvent cité par Lévinas, il s'agit de Rabbi Israël de Salanter, un des maîtres du Moussar, « Les besoins matériels de mon prochain sont mes devoirs spirituels. » Ce que savait d'ailleurs Victor Hugo à sa manière, dans Les Misérables, je vous rappelle cet épisode, quand Jean Valjean arrive à la maison de l'évêque de Digne, au début du roman, quelle est la première réaction de l'homme religieux? Il dit à sa servante, mettez un couvert de plus à la table, sans même qu'il sache de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un malfaiteur, peut-être quelqu'un de dangereux? Mais l'acte de nourrir transcende toute méfiance, tout examen. Enfin, on ne saurait élaborer une réflexion qui s'intitule « Torah et justice sociale » sans aborder ce qui sous-tend toute économie, le travail humain. Je vous rappelle que le travail humain, eh bien, pour les pères de l'économie moderne, comme Adam Smith, Ricardo et Marx, évidemment, c'est la source de toute valeur fixée à la marchandise. Marx définit même l'humanité de l'homme par son travail, différent de celui de l'animal. L'homme est cet être capable de transformer la nature par son travail, un travail prémédité et réfléchi. Pour savoir quelle est la position de la Torah sur la question du travail et du rapport à la nature, nous pouvons nous référer brièvement à la paracha de Bereshit. Tandis qu'au jardin d'Éden, Adam et Ève ne travaillent pas, qui n'ont pour mission que de cultiver et de garder la terre, donc le Ovda ou le Shomra, comme dit le verset, principe écologique avant la lettre, une fois expulsé du jardin, le travail apparaît comme une corvée. La consommation de pain se fera à la sueur de ton front. La terre est désormais maudite, arura adama avurcha. C'est la punition divine. Que s'est-il passé? Le travail est-il nécessairement une punition? Et qu'en est-il dans ce contexte du verset du psaume 104? Le soleil commence à poindre, ils se retirent et vont se blottir dans leur tanière. L'homme se rend à son labeur, accomplir sa besogne jusqu'au soir. Verset 22-23. Là, il semble que le travail soit une bénédiction. Il y aurait donc un tikkun du travail qui apparaît d'abord sous les traits d'une malédiction. Lévinas commente ainsi ce verset dans son commentaire talmudique, dans sa lecture talmudique, hein, Judaïsme et Révolution. Les droits et la dignité tiennent à sa condition de travailleur. Le travail appartient à l'ordre de la lumière et de la raison. Dans un monde où le travail apparaissait comme marque d'une servitude réservée à l'esclave, Reish Lakish tient à l'apercevoir comme parachèvement de la création. Fin de citation du Sacré au Saint. Ça, c'est à la page 28. Je reviendrai plus loin sur cette question. Alors, j'aborde maintenant directement les versets qui concernent la question sociale. On verra qu'ils sont légion, tant la Torah a le souci d'autrui, surtout lorsqu'il ou elle sont pauvres lorsqu'il s'agit de la veuve ou de l'orphelin, de l'étranger aussi. Tout d'abord, les principes de justice sont solidement établis dès le livre de la Genèse. Je cite, en Genèse 18, « Abraham ne doit-il pas devenir une nation grande et puissante et une cause de bonheur pour toutes les nations de la terre ? Si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice. » En fait, la vertu et la justice sont la traduction de cette expression fondamentale pour ce qui nous concerne, « tzedaka » ou « mishpat ». Donc vous voyez que dans « tzedaka », il y a déjà le mot de « tzedek » avec la lettre « hey », d'accord, à la fin. Et en Deutéronome 17, il est écrit « tu institueras des juges et des magistrats ». Shoftim ou Shotrim titen lecha, dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donnera. C'est la justice seule que tu dois rechercher. Tzedek, tzedek, tirdof. Littéralement, tu la poursuivras. La justice, le tzedek et le droit, le mishpat, sont les grands principes qui président aux relations entre l'homme et son prochain, lorsqu'on en vient à juger des affaires ou des contentieux qui divisent les hommes. La justice n'est rien si elle n'est pas accompagnée de l'institution de tribunaux où siègent des juges, des Shoftim. Lorsqu'on sait ce qui se passe en Israël depuis quelques mois, nous sommes en pleine actualité. Mais la justice se décline déjà comme justice due aux pauvres. Tzedaka. De quoi s'agit-il au juste? C'est le cas de le dire. Concernant le rapport aux pauvres, je convoquerai d'abord des versets du Deutéronome, parce qu'ils résument un certain nombre d'idées déjà apparues auparavant. Donc je commencerai par ces versets du Deutéronome 15, versets 4, 7, 8 et 11. « À la vérité, il ne doit pas y avoir d'indigent chez toi. » Car l'Éternel veut te bénir dans ce pays que lui, ton Dieu, te destine comme héritage pour le posséder. Plus loin, que s'il y a chez toi un indigent, un évion, d'entre tes frères, dans l'une de tes villes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine, tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton cœur nécessiteux. Ouvre-lui plutôt ta main, prête-lui en raison de ses besoins, de ce qui peut lui manquer. L'oté amet cet levavra, velotikvot cet yadecha, meachicha evion, kipator tiftach et yadecha. Or, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je te fais cette recommandation. Ouvre ta main à ton frère, au pauvre, au nécessiteux qui sera dans ton pays. Ki lo yechdal evion mikerev haaretz. Et Rashi, immédiatement, se rend compte qu'il y a une contradiction entre deux versets. Il dit, les versets semblent dire une chose et son contraire. Il fait référence ici à deux versets. L'un dit, il ne doit pas y avoir d'indigents chez toi. Et l'autre, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. Et Rashi dit, en vérité, si vous accomplissez la volonté du nom, il y aura des pauvres, mais chez les autres peuples et non parmi vous. Et si vous ne faites pas la volonté du nom, il y aura des pauvres parmi vous. Message édifiant, évidemment, qui nous enjoint à faire la volonté du nom. Mais allons plus loin dans le sillage de Rashi, et on pourra noter simplement ici que la Torah semble envisager au moins la possibilité d'une société sans pauvres, sans pauvreté. Utopie d'une société d'abondance, peut-être, si l'on s'en tient à la lettre de ce verset. Il ne doit pas y avoir d'indigents chez toi. La pauvreté n'est pas une fatalité, il y a moyen d'endiguer ce fléau. Alors, mais qui est le pauvre, précisément? Le texte biblique désigne le pauvre soit comme Ani, Aïn Nun Yud, soit comme Evion, Aleph Bet Yud Vav Nun. Celui qui est en désir de tout, Ta'ev, dit Rashi. Précisément parce qu'il n'a rien. Comme toujours dans la Torah écrite, nous n'avons pas de définition précise de ce qu'est un pauvre, ni d'établissement du seuil de pauvreté. Nous verrons qu'il n'en est pas de même dans la Torah orale. Toutefois, les versets nous donnent des indications, comme celle-ci importante. Quelqu'un qui manque du nécessaire, sans doute de nourriture d'abord, mais pas uniquement, puisque la Torah nous dit « donne-lui en fonction de ses besoins, de ce qui lui manque, dei marsoro ». Mais qu'est-ce qui lui manque au juste? Peut-on obtenir une norme du manque? Le manque n'est-il pas éminemment subjectif? Ce qui me manque ne me manquera pas à mon voisin. Nous savons bien que la notion de manque est une boîte de Pandore qui ouvre la porte à tous les biens de ce monde. Suivons Rachid, on l'a encore. En raison de ses besoins, dit le verset, « Demarsoro », et Rachid nous dit « Tu n'es pas tenu de l'enrichir. »« Veinata metsuve leashiro » De ce qui peut lui manquer, dit encore Rachid, donc il commente ce verset, « Achérir sarlo », même un cheval pour lui servir de moyen de transport et un esclave pour courir à ses devants. L'eau, c'est une femme, comme il est dit, je lui ferai une aide pour contre lui. C'est l'eau ezer kenegdo en Genèse 2. Fin de citation. Effectivement, le manque est subjectif, mais nous pouvons le restreindre aux besoins considérés comme les plus élémentaires. Et quels sont-ils? Rachid nous le dit ici. Au-delà de la nourriture, d'un toit et des vêtements, elle comprend un minimum de luxe, entre guillemets, qui dépend du niveau de vie de celui qui était. De l'homme qui était en proie au manque, qui est en proie au manque. S'il avait un train de vie assez luxueux, on dirait un cheval, aujourd'hui nous dirions une voiture, bien sûr, ou un esclave, aujourd'hui nous dirions des serviteurs, des employés de maison, et qu'il a fait faillite et les a perdus, il faut les lui fournir, car il souffre de ce manque, de ce qu'il considère comme une privation. Pour lui, précisément, ce n'est pas du luxe, mais le nécessaire pour mener une vie décente à ses yeux, et d'ailleurs pas seulement à ses yeux, mais aux yeux de son entourage, parce que il ne doit pas être humilié aux yeux de son entourage, qui sent qu'il a tout perdu en quelque sorte. Donc il y a ici une autre dimension essentielle qu'il faut relever concernant ces versets. Quelle est cette dimension? La Torah s'adresse d'abord à l'individu, à n'importe quel individu en Israël, en lui disant simplement « Donne, ouvre ta main, patur tiftach et yadecha ». Et Rachid dit plusieurs fois même. Ne reste pas indifférent à ton frère nécessiteux, car il est ton frère précisément. Cela pourrait être toi, vous êtes tous une même et grande famille. La Torah s'adresse d'abord à l'individu susceptible de donner et l'éduque au don, à la générosité. C'est donc d'abord à moi en tant que personne de donner à autrui, pas à l'État. On verra ce qu'il en est des pouvoirs publics plus tard. Mais je ne saurais me dérober à mes devoirs lorsqu'il s'agit de donner à autrui. Je ne saurais en appeler à des responsables au-dessus de moi qui seraient responsables du bien-être de tous les citoyens. C'est à moi de donner. La Torah me place face à mes responsabilités dans ma vie quotidienne. Je dois me soucier du pauvre, le prendre en compte, ne pas me détourner le regard, mais précisément regarder ce visage en proie à la détresse et lui donner. Ce qui préside à ce commandement, ce sont trois principes qui apparaissent ici en filigrane. La fraternité, l'autre est mon frère, la générosité, donne, ouvre ta main, et la solidarité, évidemment. Ton cœur et ta main doivent être ouverts à ton prochain. Formulons une première conclusion sur ces versets du Deutéronome avec un commentaire du Rashi. Je cite, « Tu n'endurciras pas ton cœur ni ne fermeras ta main. Il y a des gens qui hésitent, écrit Rashi, donnerai-je ou non, et ferment leur cœur. » Le verset dit, « Tu n'endurciras pas ton cœur. Il y a ceux qui ferment leurs mains, mais face à celui qui demande, qui ferment leurs mains face à celui qui demande, et le verset dit « Ne referme pas ta main ». Fin de citation. En vérité, ces versets du Deutéronome ne sont qu'une prescription générale. Dans d'autres versets, la Torah entre plus dans le détail en posant des questions. Comment donner ou prêter? À qui? Quoi? Comment? Dans quelles circonstances? La Torah écrite, mais aussi orale, on le verra, s'inquiète des détails les plus infimes du don. Et n'en reste jamais au niveau des principes. C'est toute sa force. On va passer en revue un certain nombre de ces détails qui sont tous importants. Il ne s'agit pas de détails au sens habituel, d'ailleurs, mais de spécifications essentielles de ce commandement de la tzedaka, à savoir de la justice due aux pauvres. Alors, première spécification, l'interdit du prêt à intérêt, qui est répété à plusieurs reprises, d'ailleurs, et élargi à tout prêt, pas seulement d'argent, interdit de profiter de la pauvreté de son frère pour s'enrichir. Je cite ce verset en Exode 22-24. « Im kesef talve et ami, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier, n'exigez point de lui des intérêts. » Là encore, je suis Rashi, qui s'appuie lui-même sur le Talmud, et il va nous aider à mieux comprendre ce verset. Tout d'abord, pourquoi « mon peuple, ami » et que signifient au juste les intérêts, le nesher. Alors tout d'abord, pourquoi « mon peuple » Rabbi Ishmael dit, donc, si tu prêtes, tous les si, les im dans la Torah désignent le libre choix, sauf trois, et celui-ci est l'un d'entre eux. Donc il faut prêter, il ne s'agit pas d'une condition. C'est un commandement. De mon peuple, entre un non-juif et un juif, le juif a la préséance. Un pauvre et un riche, le pauvre a la préséance. Tes pauvres et les pauvres de ta ville, tes pauvres ont la préséance. Les pauvres de ta ville et les pauvres d'une autre ville, les pauvres de ta ville ont la préséance. Et voici le sens de ce verset. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, tu le prêteras et non à un non-juif. Et à qui au sein de mon peuple? Au pauvre. Et à quel pauvre? Celui qui est avec toi. Autre chose, de mon peuple, pour ne pas que tu te conduises avec lui, en l'humiliant par ton prêt. Car il est mon peuple. Le pauvre qui est avec toi, considère-toi toi-même comme si tu étais toi-même ce pauvre. Ne sois point à son égard comme un créancier. N'exige point de lui de l'argent de lui avec force. Si tu sais qu'il n'a pas d'argent, ne lui fais pas sentir que tu es son créancier. En d'autres termes, ne lui fais pas honte. Fin de citation. De là, nous apprenons deux enseignements. Le don, l'aide sociale, doivent se faire en fonction d'une certaine proximité. Proximité avec la personne que l'on aide, à qui l'on doit donner personnellement. Encore une fois, l'aide sociale est un commandement qui nous engage envers autrui, au sens le plus concret du terme, celui que nous connaissons, que nous voyons et que nous aidons personnellement. Le second enseignement est celui du respect à l'autre. Lorsque tu donnes, attention à procéder avec tact, en respectant autrui, car précisément il se trouve dans une position vulnérable et il peut facilement être offensé, froissé par ton don. D'où le précepte de Rashi, ne lui fais pas honte, lo tachlimehu. Le pauvre est dans une situation fragile psychiquement. Il se sent humilié au banc de la société. Et c'est à nous de trouver le moyen de ne pas lui faire honte, de le respecter. Qu'en est-il maintenant des intérêts? Écoutons encore Rashi sur Nesher. Des intérêts qui sont pareils à la morsure du serpent, Neshirat Nachash. Celle-ci fait une petite morsure au pied, la morsure, hein, et l'homme ne la ressent même pas. Mais soudain, la morsure se met à enfler de plus en plus. De même les intérêts. Au départ, il n'en ressent rien, jusqu'à ce que les intérêts s'élèvent et enflent, lui faisant perdre une bonne partie de sa fortune. Fin de citation. Le prêt à intérêt est strictement interdit envers notre frère, car c'est une forme d'exploitation. On profite de la détresse d'autrui, qui a besoin d'argent, pour s'enrichir soi-même. Rashi note qu'au départ, les intérêts semblent certes inoffensifs, mais à la longue, ils enflent comme une morsure de serpent. Et le prêteur en souffre au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Les prêts à intérêt, c'est traître. Toute personne qui a fait un emprunt à la banque le sait. Au départ, on est très satisfait d'obtenir le prêt, mais ensuite, cela se retourne contre nous et cela fait mal. On sait que les rabbins, d'ailleurs, vont finir par se rendre ici au principe de réalité. Réalisant que la vie économique ne saurait fonctionner sans le prêt à intérêt, finalement, tous ont intérêt au fonctionnement, de la vie économique, le prêteur aussi bien que l'emprunteur, ils ont institué une clause qui contourne cet interdit, qui s'appelle le heter iska, le permis de faire une affaire. Selon cette clause, la banque ne me prête pas. Elle fait une affaire avec moi en me prêtant avec un taux d'intérêt. Encore une fois, on voit ici la différence entre les principes et leur application dans la réalité, qui exige parfois une adaptation un peu tortueuse, voire même un contournement tout simplement. Toutefois, par rapport à ce strict interdit, un autre passage du Pentateuque va nous enseigner une chose un peu différente. Je cite en Deutéronome 23, « N'exige point d'intérêt de ton frère, ni intérêt pour argent, ni intérêt pour denrées ou pour toute chose susceptible d'accroissement. Nesher kesef, kol davar asher ishar. À l'étranger, tu peux prêter un intérêt. » Tu ne le dois pas à l'égard de ton frère, l'énochri. Donc d'accord, l'étranger c'est Nochri. Si tu veux que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse tes divers travaux dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Fin de citation. Le prêt à intérêt, celui qui n'est pas d'Israël, le prêt à intérêt à l'étranger, celui qui n'est pas d'Israël et qui ne vit pas avec lui, le Nochri, est en revanche permis. On peut critiquer cette permission comme ouvrant la porte à tous les conflits avec le non-juif. On connaît l'importance de cette clause dans l'histoire juive, notamment au Moyen-Âge, au moment où les juifs ont commencé à exercer l'usure en Europe. Ce n'est pas le lieu ici de discuter du rôle de l'usure dans la sociologie juive et des relations souvent conflictuelles entre juifs et chrétiens. Ce serait le sujet d'un autre cours et je le laisse aux historiens du judaïsme. Je me contente de relever un verset qui peut nous choquer aujourd'hui. J'aimerais citer un autre verset qui indique le respect que l'on doit aux pauvres, l'extrême attention accordée à sa dignité. En Exode 22, 25-26, il est écrit « Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre, car c'est là sa seule couverture. C'est le vêtement de son corps. Comment abritera-t-il son sommeil? Or, s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. » Et en Lévitique, un verset que je cite immédiatement dans le sillage de celui-ci, Lévitique 19, « Ne commets point d'extorsion sur ton prochain. Lota ashok, n'exploite pas, littéralement. Point de rapine, que le salaire de ton prochain ne reste point par devers toi jusqu'au lendemain. » Fin citation. Et Rashi immédiatement commente le verset qui dit « Ne commets point d'extorsion. » Il s'agit de l'employeur qui ne paie pas son employé. Fin citation. Déjà, bien avant nos socialistes et communistes modernes, la Torah est très soucieuse d'éviter toute exploitation, oshek. Elle connaît l'avidité de l'homme et prend soin de prévenir tout ce qui pourrait aller dans le sens d'une quelconque oppression ou exploitation. Attention, dit-elle, à ne pas opprimer autrui, ne pas l'exploiter. Alors, certes, l'exploitation n'a pas le sens marxiste qu'elle aura plus tard avec l'introduction du concept de plus-value. Elle signifie ici, selon Rashi, payer à temps son employé. Après sa journée de travail, lorsqu'il s'agit d'un travailleur journalier. Ne pas lui prendre ce dont il a besoin pour sa survie, son confort le plus élémentaire, ici, son vêtement. Aujourd'hui encore, de nombreux conflits sociaux naissent d'une situation où l'employeur ne paye pas à temps son employé, où il prend son temps, procède à des atermoiements. La Torah condamne fermement cette pratique et l'interdit très clairement. L'employeur doit se mettre dans la peau de son employé, qui est son frère, toujours le même principe de fraternité, de solidarité, qui doivent surmonter les différences sociales, les statuts et les hiérarchies. Parmi les commandements sociaux, il est une catégorie particulièrement importante, les commandements liés à la terre. J'en ai déjà dit un mot. On ne le sait pas assez, mais il relève également d'une dimension sociale. Je cite en Exode 23, 10, 11, « 6 années, tu ensemenceras la terre et en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du repos et en abandonneras les fruits. Pour que les indigents de ton peuple, on retrouve ce terme encore une fois, evionei amecha, le evion, en jouissent. Le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi, en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'olivier. » Fin de citation. Notons que le commandement de la Shemitah, la Jachère, le Shabbat de la terre, est directement suivi du commandement du Shabbat, qui est lui-même d'inspiration sociale, puisque le fils de ta servante, je cite, ainsi que l'étranger pourront s'y reposer. Mais on oublie que la Shemitah, le Shabbat de la terre, est également considérée comme un commandement à caractère social. Elle est destinée à laisser les produits de la terre aux pauvres pour leur jouissance. Ce qui renforce cette idée que la Shemitah vaut également pour les dettes, d'ailleurs. Il s'agit de savoir lâcher prise. C'est ça, c'est le sens même du mot lishmot, lâcher prise. Ne pas s'accrocher à son argent, à ses biens. À la paracha de Béhar, au livre du Lévitique, il est question d'un autre commandement allant dans le même sens, le yovel. C'est la 50e année, l'année où l'on doit faire sonner le shofar et libérer tous les esclaves. C'est l'année de la liberté. Vous appellerez à la liberté dans le pays, vekaratem dror ba'aretz. Liberté pour tous ses habitants. La liberté ici a également un caractère social incontournable puisqu'il s'agit de la libération de tous les esclaves. Dans une vision utopique, celle qu'on propose la Torah à cette paracha, chacun doit pouvoir vivre en homme libre, ne pas dépendre d'autrui pour sa subsistance, pour sa parnassa. Plus encore, la Torah nous invite à une leçon de magnanimité, de grandeur d'âme par rapport à ses biens. Sachons prendre du recul par rapport à nos possessions, par rapport à la terre. Puisque, nous dit explicitement les versets, à Dieu appartient toute la terre, psaume. Et à la paracha de Béhar, il est dit aussi explicitement, car la terre est à moi, qui lie à Aretz. L'ensemble des commandements liés à la terre possède ce caractère social. Finalement, il vise à la dépossession, précisément. On possède pour en sorte pouvoir être dépossédé. Voilà le paradoxe de la possession dans la Torah. En Lévitique 19, 9, 10, il est écrit « Quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout de ton champ. » Pe'at sadecha. Ça, le bout. Et tu ne ramasseras point la glanure, le lequet de ta moisson. Tu ne grappilleras point dans ta vigne et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Fin de citation. De quoi s'agit-il ici? De dons faits en nature, liés à la terre. La pratique de l'agriculture, du travail de la terre, doit être soumise, au principe du don, de la justice faite aux pauvres. Tout propriétaire d'un champ doit procéder à un ensemble de règles destinées à laisser une part de sa récolte aux pauvres et aux étrangers, à ceux qui sont susceptibles d'en avoir besoin. On verra qu'une Mishnah entière codifie ces commandements au moindre détail près, la Mishnah de Péa. Venons-en maintenant à une autre dimension des commandements de la Tzedaka. Je prends appui sur un verset du Lévitique 25 qui dit « Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi. » N'accepte de sa part ni intérêt, et on revient encore une fois à cette idée d'intérêt, d'interdit de l'intérêt, de nesher, ni profit, t'arbitre, mais crains ton Dieu, et que ton frère vive avec toi. D'accord ? Le Midrash dit, fais tout ton possible pour ne pas qu'il déchoie, parce qu'alors il sera difficile, très difficile de le relever, précisément. Comme un homme qui tombe d'un âne et qu'il est très difficile de le relever. À la différence des commandements que nous avons relevé jusqu'ici, ce commandement est adressé à la communauté. Non pas seulement à l'individu, mais à la communauté. La collectivité doit elle aussi s'acquitter de son devoir envers le pauvre, comme il est dit, Vechai achicha imach, dimension publique du commandement, puisqu'il s'agit ici de la communauté. En effet, pour que le pauvre puisse vivre avec toi, il faut des institutions qui s'occupent de lui, non seulement en l'aidant concrètement à subsister, mais en se souciant activement de sa réinsertion. Car vivre, cela signifie vivre décemment, travailler de façon à sortir du cycle de la misère et de la dépendance. Pour cela, il faut une collectivité, des pouvoirs publics. Mais quelle collectivité? Ici, il nous faut recourir à ce que dit le Talmud, en Sanhedrin 17b. Je cite, « 10 choses doivent se trouver dans une ville. » Ir en hébreu, pour que le sage puisse y résider, un tribunal qui prononce des sentences, d'institutions judiciaires, une caisse de bienfaisance collectée par 2 receveurs et distribuée par 3 administrateurs, aide sociale, une synagogue, religion, etc. etc. Et Maïmonide reprend cet enseignement fondamental en Mishneh Torah 9.1, je cite, « Dans toute ville, toujours la ville, Ir, où résident des juifs, c'est un devoir de nommer des administrateurs pour les œuvres de bienfaisance. Ces administrateurs doivent être des personnes renommées et dignes de foi. Leur tâche est de frapper aux portes chaque vendredi et de collecter auprès de chacun la somme qu'il est censé donner, puis de distribuer cet argent d'un vendredi à l'autre, et de dispenser à chaque pauvre de quoi subsister pendant la semaine. Voilà ce qu'on appelle la caisse, la koupa. » Fin de citation. Maïmonide reprend la Gemara en surenchérissant sur elle. Il ne s'agit pas seulement du sage, du Talmid Chacham, mais de n'importe quel juif. Un juif ne saurait résider dans une ville où n'existe pas une œuvre de bienfaisance organisée. C'est comme s'il ne le faisait pas, de son devoir de juif, qu'il négligeait un commandement central de la Torah. Nous voyons donc que le commandement de la Tzedaka ne vaut pas seulement pour l'individu juif, mais aussi pour les pouvoirs publics, la ville. On sait que depuis déjà l'époque talmudique, les juifs vivaient en communauté. Ce qu'on appelle ici la ville, que ce soit sur la terre d'Israël ou en exil. Notons que la taille de la ville ici n'est pas spécifiée. La ville peut être une petite unité, une sorte de communauté organisée, qui doit comprendre tout ce dont un juif a besoin pour mener une vie juive, des tribunaux, une synagogue bien sûr, mais aussi une organisation chargée des œuvres de bienfaisance. Notons que c'est dans ce cadre communautaire que les juifs ont vécu en Europe jusqu'à la Révolution française, à savoir jusqu'à leur intégration dans la nation comme citoyens. Ils gardaient une certaine autonomie au niveau de leur organisation communautaire. On notera aussi que la tradition juive ne croit pas au rôle d'un pouvoir central sur ce plan. C'est à la collectivité locale, à la ville, si vous voulez, de prendre soin de ses pauvres. Est-ce simplement parce que historiquement les juifs ne vivaient plus depuis longtemps sous un pouvoir central, un royaume, Peut-être, mais la raison, selon moi, est plus fondamentale encore, plus profonde. L'État comme pouvoir central ne saurait se soucier des pauvres, il en est trop éloigné. Le roi ou le président ou le premier ministre gouvernent de leur palais ou de leur bureau. Ils ne sauraient connaître réellement la détresse de la situation sur le terrain. C'est aux pouvoirs municipaux, à la ville, de prendre la responsabilité de ce qu'on appelle aujourd'hui les cas sociaux, des cas qui demandent une prise en charge active des pouvoirs publics. C'est ici qu'il faut mentionner le rôle essentiel de ce pouvoir municipal, qui doit nommer des fonctionnaires chargés spécialement de l'œuvre sociale. Parmi ceux-là, certains vont collecter la caisse de bienfaisance destinée aux pauvres, et d'autres vont être chargés de la distribution. Distribution d'argent ou du repas des pauvres, comme on le verra. Maïmonide ajoute, il y a aussi des fonctionnaires chargés de faire respecter le commandement de la tzedaka, des sortes de policiers qui veillent à ce que chacun donne ce qui est de son devoir de donner. Je cite, encore une fois Maïmonide, en Mishneh Torah 7-10, « Celui qui ne veut pas donner l'aumône, la tzedaka, ou qui donne moins que ce qu'il devrait, cas d'aumône insuffisante, le tribunal contraint cet individu à faire l'aumône et lui applique la peine de flagellation jusqu'à ce qu'il donne la somme que le tribunal a évaluée. Le tribunal confisque ses biens en sa présence et lui prend ce qu'il convient qu'il donne. On hypothèque les biens d'un individu pour qu'il donne l'aumône, même les veilles de Shabbat. » Fin de citation. Je crois que nulle part mieux qu'ici, on voit que la tzedaka n'est en rien de la charité, ce qu'on appelle la charité, un bon vouloir du cœur, mais qu'il s'agit d'un commandement institué par les pouvoirs publics eux-mêmes pour veiller au bien-être de tous les habitants d'une ville. On applique à la lettre ce bout de verset « et qu'ils vivent avec toi ». Pour qu'ils vivent avec toi, il faut veiller à ce que chacun donne à la caisse des pauvres une part de son salaire. L'institution des impôts est elle aussi d'origine biblique, comme on le voit dans ces versets du Deutéronome 14. À la fin de la troisième année, je cite, « tu extrairas la dîme, le maaser, entière sur tes produits, toi, terra, de cette année, et tu la déposeras dans tes murs, pour que le lévite, qui n'a point de part ni de patrimoine comme toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes murs, puissent venir manger et se rassasier. » Fin de citation. La dîme, le maaser, c'est l'origine de l'impôt, qui se trouve inscrit dans la Torah. À l'origine, il s'agit d'un dixième de son salaire, mais cette mesure, encore une fois, salaire au sens large, hein, des biens, ça peut être la récolte, ici, en nature donc, il s'agit d'un dixième de son salaire, mais cette mesure peut varier. Le dixième est une norme moyenne qui est sujette à des variations. En Lévitique 25, il est encore question de l'homme réduit à la misère. Même l'individu qui a fait faillite ne doit pas devenir un esclave, il doit garder sa dignité. Je cite, Lévitique 25-38, « Si ton frère près de toi réduit à la misère se vend à toi, ne lui impose point le travail d'un esclave. C'est comme un salarié, comme un sahir, comme un hôte, comme un toshav, qu'il sera avec toi. Il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Alors il sortira de chez toi, lui ainsi que ses enfants. Il retournera dans sa famille et recouvrera le bien de ses pères. Car ils sont mes esclaves à moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves, ne le régente point avec rigueur. Crains d'offenser ton Dieu. » Fin de citation. Donc pas d'ouvrier exploité comme au temps du capitalisme triomphant au XIXe siècle. Même le pauvre doit garder sa dignité d'homme créé à l'image de Dieu. Il doit être un salarié et non un esclave que tu peux exploiter et opprimer à ta guise. Attention à conserver la dignité de chaque homme. Enfin, je terminerai cette lecture biblique des versets du Pentateuque en précisant que les bénédictions et les malédictions divines ont également partie liée à la richesse et à la pauvreté. La richesse est une bénédiction, comme la pauvreté, une malédiction. On l'a déjà vu d'ailleurs avec les patriarches. Je cite la bénédiction avec Deutéronome 28. L'Éternel fixera chez toi la bénédiction dans tes celliers, dans tous tes biens. Il te rendra heureux dans ce pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine, et l'Éternel te rendra supérieur à tous en félicité, par le fruit de tes entrailles, celui de ton bétail et celui de ton sol, sur la terre qu'il a juré à tes aïeux de te donner. L'Éternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel pour dispenser à ton sol des pluies opportunes et faire prospérer tout le labeur de ta main. Et tu pourras prêter à main de nation, mais tu n'emprunteras point. Et la malédiction maintenant, en Deutéronome 28-29, « Et tu iras en tâtonnant, en plein midi, comme fait l'aveugle dans les ténèbres, tu ne mèneras pas à bonne fin tes entreprises, tu seras opprimé et spolié incessamment, sans trouver un défenseur. » Donc richesse et pauvreté, on voit, ne sont pas indépendants de l'ordre moral et religieux. Ils sont liés et sont liées, pardon, à l'ordre divin de l'observance des commandements de la Torah. Enfin, je terminerai ce deuxième cours en étudiant quelques versets de l'immense littérature prophétique sur la question sociale. Alors, faute de temps, je ne citerai qu'un seul prophète, Amos, que je considère comme un précurseur de Rousseau, de tous les socialistes modernes. Il faudrait ici au moins un cours, voire plusieurs cours, pour considérer l'ensemble des évocations des prescriptions à caractère social dans la littérature prophétique. Je renvoie simplement au magnifique chapitre 18 d'Ézéchiel qui reprend l'expression qu'on a vue tout à l'heure à propos d'Abraham, Mishpat Utzaka, justice aux pauvres et droit. Preuve que ce principe qui apparaît au livre de la Genèse à propos d'Abraham gouverne l'ensemble de la littérature biblique et surtout les prophètes. Je rappelle que les prophètes placent les commandements moraux entre l'homme et son prochain et donc dont font partie les commandements sociaux plus haut que les commandements purement rituels entre l'homme et son créateur. L'un des enseignements les plus récurrents des prophètes est que les sacrifices offerts par des gens immoraux et injustes ne sont point désirés par Dieu, qu'ils sont vains. Je reviens à Amos et je cite deux passages séparés. Le premier est Amos 4, 1. Je cite donc « Écoutez cette parole génisse de Bashan, vivant sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez le pauvre, écrasez les indigents, qui dites à vos maris, apportez que nous puissions boire. Le Seigneur Dieu l'a juré par sa sainteté. Voici que des jours vont venir où l'on vous enlèvera, vous avec des harpons, et vos enfants avec des hameçons de pêche. » Et, fin de citation, et Amos maintenant en 6, « Malheur à vous qui vous croyez en sécurité en Sion, et à vous, si plein de quiétude sur les monts de Samarie, vous vous imaginez reculer le jour du malheur, et vous avancez le règne de la violence. Couchés sur des lits d'ivoire, étendus sur leurs divans, nourris d'agneaux choisis dans le troupeau, de veaux mis à l'engrais, fredonnant au son du luth, comme David inventant à leur usage des instruments de musique, ils boivent du vin à même les amphores, se frottent d'huile de choix et ne s'affligent guère du désastre de Joseph. C'est pourquoi tantôt ils s'en iront en tête des déportés. Alors s'en sera fini des chants bruyants de ces voluptueux. Mais vous, vous avez changé le bon droit en poison et l'œuvre de la justice en plante vénéneuse. » Fin de citation. Amos, le type le plus accompli du prophète de colère, de Navizam, dénonce l'excès de richesse, l'extrême abondance ou le luxe qui corrompt l'âme. Celle-ci est salie, donc l'âme est salie par l'état de volupté où la plonge, où le plonge l'excès de richesse. Amos annonce déjà les diatribes d'un Rousseau contre la civilisation corruptrice qui dénature l'homme simple. Il s'élève contre la perversion inhérente à l'homme civilisé qui s'est oublié lui-même dans la course après les plaisirs de la société. Chez Amos, comme chez Rousseau, on voit déjà l'amorce d'une critique de la société de consommation actuelle qui, par la course folle pour assouvir tous les désirs, comme si c'était possible, course qui pousse à un luxe de plus en plus incontrôlé, favorise l'égoïsme et l'indifférence à l'égard d'autrui. Dans la société de consommation, l'homme ne voit que lui-même, que son propre plaisir. Il y a un narcissisme de l'homo consumerans. Mais la dénonciation des prophètes ne s'arrête pas là. Elle s'en prend à l'injustice, à l'exploitation des pauvres par les riches, à toute oppression sociale, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas sans raison si l'extrême droite française, dans les années 1900, comme des gens comme Maurras, Barrès et leurs émules antisémites, voient dans les prophètes d'Israël de dangereux socialistes et dans les juifs des anarchistes nés. L'œil de l'antisémite voit parfois juste. Les prophètes d'Israël sont effectivement des socialistes avant la lettre, qui s'en prennent aux riches et à leurs moyens de s'enrichir sur le dos des pauvres. Mais en cela, nous pouvons désormais le dire, les prophètes d'Israël ne font que reprendre les enseignements essentiels de notre maître Moïse, tels qu'ils sont consignés dans le Pentateuch. Les prophètes présentent une image épurée de la Torah dans sa quintessence. J'en reste là pour ce second cours. Au troisième cours, j'évoquerai la question sociale dans la littérature rabbinique et ilkhatique. Merci de votre écoute.